Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Live.
Thibaut Giangrande.
Avec Roland Courbis pour la 32e journée de Ligue 1, match important pour la Ligue des Champions, match important pour le maintien à Francis Leblay. Brest reçoit Nantes et ça vient de repartir en deuxième période. Pierre-Yves Leroux et Edgar Gourlaud.
Depuis une poignée de secondes, Thibaut, c'est reparti. Pas de changement, 0-0 entre les deux équipes. On précise juste qu'il y a déjà eu des changements, Edgar, en première période et des changements importants côté brestois.
Exactement, avec la sortie de Romain Del Castillo et de Pierre Lesmelo, tous les deux sur blessure. On n'en sait pas plus pour l'instant hein, sur la gravité de ces éventuelles blessures et l'entrée de Jonas Martin. Et attention, on va suivre cette action quand même.
Ouais, ballon récupéré par les Brestois avec un Jean-Kévin Duverne en difficulté, mais derrière le centre n'a pas pu être appliqué par Steve Mounier, mais ça donnera quand même un corner en faveur des Brestois. Attention, au début de mi-temps, des hommes d'Éric Roy, corner qui va être frappé de la droite vers la gauche, cette fois devant la tribune des Ultras Brestois et des Celtic Ultras. On va surveiller aussi Alban Lafont dans cette prise de balle. C'est dégagé sans problème par la tête de Sissoko et les Brestois qui n'arrivent pas à contrôler ce ballon. Ce sera même Moutous Samy qui pourra dégager de la tête.
Et juste pour terminer, c'était donc Mathias Pereira, l'agent qui avait remplacé Romain Del Castillo.
Et à 22h04 sur RMC, avant de retourner très vite à Francis Leblay, l'actu sport ce soir, c'est également la Formule 1. Le Grand Prix de Miami a lieu ce week-end. Vous avez suivi tout à l'heure la course au sprint et on va vivre ensemble en direct la qualification de ce Grand Prix. Salut Jean-Luc Roy.
Salut Thibaut. Salut Roland et bonjour à tous.
Bon, il y a après la victoire tout à l'heure de Verstappen, il y a un léger favori pour cette séance de qualif.
Alors c'est clair, mais on l'a vu tout à l'heure avec quelques problèmes de traction avec le train arrière. Alors ça va pas, ça devrait pas lui poser de problème sur un tour, hein, puisque tout à l'heure il a signé la pole en 1:27.641. Par parenthèse, ce sera intéressant de voir le niveau de performance de la piste là, parce qu'il y a eu un crash dans une course d'accompagnement tout à l'heure, et on a mis à certains endroits ce qu'on appelle le high dry. C'est une espèce de poudre qui absorbe l'huile, tu vois. Donc ça doit handicaper un tout petit peu pour le moment. Le plus rapide, c'est Carlos Sainz en 1:28.159. Et je peux te dire qu'il avait roulé en 1:28.103. Donc j'ai le plaisir de te dire que la piste est en très bon état.
La séance de qualification avec Jean-Luc, à tout de suite. Retour à Leblay sur RMC dans l'After Live avec coach Courbis, Edgar Gourlaud, Pierre-Yves Leroux, Brest-Nantes.
Et toujours les Brestois en possession du ballon. Ce fut le cas quasiment 70% en première période. Et ça va sans doute être aussi le scénario de cette deuxième mi-temps. 48e, toujours 0-0. Ballon en profondeur qui va être pour les pieds de Nicolas Palois, toujours attentif, toujours bien positionné, qui a une bonne vision du jeu pour compenser parfois son manque de vitesse. Normal, ouais. À son âge, voilà, il faut
compenser. Il y a quand même eu deux, trois situations en première période où ils ont réussi à passer quand même entre le piston et Palois de ce côté-là, mais pour l'instant sans conséquence pour les Nantais.
Je l'appelle le phénix, Roland, Nicolas Palois, parce que par moment on se dit que voilà, sa carrière est terminée, on ne reverra plus, il disparaît pendant quelques matchs, suivant l'entraîneur qui est présent. C'était un peu le cas avec Jocelyn Gourvennec. Et puis là, on se dit, bah, c'est peut-être le meilleur choix en fait en défense.
Bah, dans tous les cas, si, et je pense que ça sera le cas, les Nantais restent en première division, il y sera pour quelque chose, pas seulement sur le terrain, mais dans le vestiaire. C'est un allié d'un coach, celui-là.
Et c'est vrai que ce soir, sur ce match précis, il fait un très bon match, notamment contre Mounier. Hein, pour l'instant, duel, il a pris le dessus.
Ce qui n'est pas facile.
Non tour aérienne, tour de contrôle au niveau des ballons aériens. Tiens, Benny Traoré, lui, il est pas très grand, mais il a réussi à se jouer de Brassier, de Loco, et à passer le ballon à Sissoko. Résultat, il y a un surnombre du côté gauche. Alors le problème, c'est que pour Jean-Kévin Duverne, et il a mis du temps à contrôler. Derrière, son centre est très mauvais et c'est récupéré sans problème par les Brestois avec Hugo Magnetti à la baguette. On rappelle que le chef d'orchestre n'est plus là. Pierre Lesmelo est sorti en première période, mais ils n'ont pas réussi dans la suite de l'action, les Brestois, à mettre en danger les Nantais et aller vite de l'avant. C'est une vraie différence avec les Canaries, hein, cette capacité à sortir vite, Edgar.
Oui, les Canaries qui arrivent vraiment à se projeter assez bien, hein, franchement, dans ce match, qui arrivent vraiment à couper les lignes, même si là quand même sur cette action, Pierre-Yves, on a senti que Duverne, c'est un défenseur central de formation. L'enchaînement était pas très académique, on va dire.
Non, c'est vrai que c'est pas là non plus une de ses grandes qualités, le côté technique. D'ailleurs, Jean-Kévin Duverne qui est pas très souvent utilisé depuis qu'il est arrivé au FC Nantes. Mais du côté des postes de latéraux, il n'y a pas énormément de choix non plus pour les coachs qui se sont succédés du côté de Nantes cette saison. Pierre Aristouille, Jocelyn Gourvennec et désormais Antoine Comboire. Et le contre là, il va être vite joué par Moutou Sami en direction de Ablin. Ablin, il est plus rapide, mais il va être pris en sandwich par deux hommes avec Kenny Lala qui aura le dernier mot et qui peut récupérer ce ballon. Bien joué.
Et on repart exactement sur les mêmes bases que la première période, c'est-à-dire une possession brestoise et ses projections vers l'avant. Nantes a failli payer une nouvelle fois, mais cette fois-ci, ce sont les défenseurs brestois qui ont pris le dessus.
Ouais, Satriano, on est revenu dans le camp Nantes. Satriano, le centre est un petit peu trop profond pour Mathias Pereira Lage et Almond Lafont peut s'en emparer sans problème, récupérer ce ballon et le relancer vite vers Jean-Kevin Duverne côté gauche, mais les portes se sont refermées et c'est Almond Lafont qui va finalement dégager au pied et trouver de l'autre côté, côté opposé, Marcus Coco. La qualité de jeu là du pied d'Alban Lafont. Alban Lafont qui a donc servi Marcus Coco qui lui n'a pas beaucoup de solutions devant les Brestois qui sont attentifs pour essayer de bloquer la relance des Canaris. Ça s'est calmé du côté des bancs, pas de changement à venir. En revanche, ça s'anime toujours du côté des tribunes avec de l'ambiance.
Ouais, un petit pétard je pense là qui a pété en tribune, ça fait un petit peu de bruit, ça nous a surpris. Ouais, et ouais, effectivement il y a un petit peu de fumée qui sort du côté des ultras.
C'est pas le Vélodrome ici, mais il y a de l'ambiance.
C'est pas mal. C'est pas le mal. Stade Brestois en Coupe d'Europe, c'est le champ, non ?
Pas trop là pour l'instant, pas trop. Je pense qu'ils sont un petit peu tendus quand même, les supporters brestois. Ouais. Au moment où ils ont vu Del Castillo sortir, ça faisait coup pour coup. Attention, l'arrêt de Marco Bizot sur cette tête effleurée par Cadeveré. Le bras, la main de Marco Bizot, c'était pas puissant, c'est ce qui lui permet de repousser ce ballon, mais c'était bien joué avec ce centre en profondeur.
Ouais, quel réflexe un coach, hein, parce qu'il lève cette main gauche pour l'enlever, elle est pas facile. Hein.
Bon. Ils vont finir par avoir des regrets, hein, parce que ça, c'est encore une occasion, ça.
Oui, tout à fait.
Cadeveré qui est un tout petit peu court, hein, il n'arrive pas à la reprendre peut-être comme il aurait voulu, et alors que le but, franchement, était trois quarts ouvert du coup par rapport à sa position.
Il y aurait eu hors-jeu.
Ah oui. Ah. Donc celle-là, on ne va pas la compter. On ne va pas la compter dans les occasions.
Mais bon, ça se serait joué comme souvent à 15-20 cm.
Il y a des écrans de contrôle en tribune de presse à Francis Leblay ou pas ?
Il y en a un, oui. Ouais. Pas juste à côté de nous, mais.
Ok.
C'est déjà pas mal.
Parce que.
Au stade et la Ligue des Champions, ça fait partie, j'imagine.
T'es déjà en train de faire les contrôles pour voir si tout est organisé.
Moi, mais Brestois, je les vois là-bas, mais je suis en train de faire un petit état des lieux, de l'étendue des travaux.
Voilà. Je pense que donc là, le problème quand même des écrans, c'est pas la priorité, Thibaut.
Rajouter quelques écrans.
Avec Benny Traoré, le 1-2, c'est bien joué, mais c'est mal réalisé. L'idée était là, mais Cadeveré n'a pas réussi à remettre ce ballon. Il y aura une faute de Benny Traoré sur Lilian Brassier. Ça donnera un coup franc à venir dans quelques instants et même un carton pour Benny Traoré.
Et tant qu'on est sur l'état des lieux, petit coup d'œil au classement, puisque si le résultat en reste à ce 0-0, Brest prendrait 2 points d'avance temporairement, on va dire, sur Lille qui affronte Lyon lundi, alors que côté Nantes repasserait à la 14e position en reprenant un point d'avance sur le Havre.
Et les Nantais, quand on regarde les fameux expected goals, les chances de but, sont largement devant. Hein. 1-0-6 à 0,35.
Mais le score,
c'est 0-0.
Mais 0 tir cadré pour Nantes. C'est plus dur de marquer.
C'est ça qui est assez incroyable. Effectivement, quand on voit la qualité des occasions pour les Canaris, notamment en fin de première période tout à l'heure, et du côté des stats ciblés pour les Brestois, on est à 2.
Oui, j'ai dit 0 tir, mais il y a eu la tête de Cadeveré à l'instant qui, je pense, était cadré, même s'il était hors-jeu finalement, probablement.
Ouais, ça ne comptera pas. Un mot, Roland, sur ce joueur dont parlait Pierre-Yves il y a quelques. Bon, première période, je crois. Mathis Ablin. Effectivement, on sent quand même, on voit qu'il a quelque chose, qu'il est au-dessus techniquement. Bon,
il est très jeune.
Ouais. C'est quoi la finition qui progresse
dans la
finition,
peut-être. La réputation qui lui est arrivée, c'est que justement. Il était très bon à l'entraînement, mais après très moyen en match. Ouais, ça, je pense que c'est pas quand même un gros problème à régler avec une discussion pour essayer de savoir le pourquoi du comment. Non, moi je pense qu'il y a encore cette marge de progression qui est certaine et que ce joueur-là, je serais vraiment surpris et ça serait pour moi incompréhensible qu'il ne devienne pas un très très bon joueur. Il est en train de progresser, là il lui manque pas grand chose ce soir pour marquer un voire deux buts. et sur ce qu'on a pu voir ces dernières semaines, ben, ça sera un artisan très important au sauvetage de Nantes.
Il vient d'avoir 21 ans.
Oui, exactement. Ouais,
il a déjà connu des sélections en espoir d'ailleurs avec l'équipe de France.
Et la faute là de Palois qui va être sanctionnée. Attention parce que ça commence à se muscler. Il y a aussi Benny Traoré qui est au sol et qui a pris un coup il y a quelques instants. Nicolas Palois qui vient s'expliquer en compagnie de Schemert et de Jean-Charles Castelletto. KDER est maintenant à côté de Monsieur Turpin qui ne sont pas d'accord avec la décision de cette faute sur Pereira Lage et coup franc à venir pour les Brestois dans quelques instants. On est assez loin, hein, début de Alban Lafont. Ce ne sera pas frappé directement, mais ça va quand même permettre d'amener le danger dans les 18 mètres du portier Nantes. Et Mathias Pereira Lage, toujours l'artificier depuis qu'il a remplacé tout à l'heure Del Castillo, le pied droit de l'ancien Angevin, à côté de lui Hugo Magnetti. C'est parti. Ah, c'est bien joué parce que on s'attendait au centre et finalement ça sera la passe côté gauche et le centre va venir de la droite, pardon, la passe côté droit, centre venu de la droite, mais ça ne donnera rien. Et derrière, Sissoko va se lancer dans une grande enjambée. Mathias Pereira Lage qui est le premier pour tacler et il y aura bien une main de Sissoko.
Oui, okay. Mais il a emporté tout le monde puisqu'il a fait tomber Brendan Chardonnay dans son geste. Brendan Chardonnay, je crois qu'il a même réclamé une faute, mais il avait peut-être pas compris que c'était son propre coéquipier qui l'avait fait tomber
et,
sur cette action.
Et en revanche, on a encore vu les gerbes d'eau au moment où les joueurs sont tombés au sol dans cette ambiance humide. 0-0, 57e minute, Thibaut.
L'After Live sur RMC, un point sur la Formule 1, la qualification du Grand Prix de Miami, Jean-Luc Roy.
Oui, Thibaut, nous sommes à 3 minutes 17 exactement du terme de la Q1. Je te rappelle le principe, 18 minutes en Q1. On élimine naturellement les 5 pilotes les moins rapides parmi les 20 pilotes qui sont sur la piste. Ensuite, la Q2 sur 15 minutes. On élimine à nouveau 5 pilotes et puis on garde évidemment le top 10 pour la bataille pour la pole. Et pour le moment, malheureusement, ceux qui ne passent pas le score, ceux qui, il faut faire 1:28.617, c'est la performance de Ricardo qui est 15e. Et bien c'est Logan Sargeant, le pilote américain floridien, même il est à domicile. C'est Pierre Gasly et c'est Kevin Magnussen, Guan Yu Zhou et Alex Albon. Voilà les 5 pilotes qui pour le moment resteraient sur le carreau à l'issue de cette Q1.
La F1, le foot sur RMC, c'est le programme jusqu'à minuit avec coach Courbis, Jean-Luc Roy. Et dans un instant, la 32e journée qui se poursuit à Francis Leblay, toujours 0 entre Brest et Nantes. A tout de suite sur RMC.
RMC, l'After Live.
Thibaut Giangrande.
Avec coach Courbis pour la 32e journée de Ligue 1, la Formule 1 également avec la qualification du Grand Prix de Miami. On y retourne dans un instant, mais direction Francis Leblay, Brest-Nantes, Edgar Grolot, Pierre Yves Leroux.
Il est l'heure, monseigneur, 60 minutes exactement, 0-0 entre
lors de
les deux
réveiller.
Équipes. Ben, pourquoi pas, ça manque un petit peu de rythme là depuis quelques instants. On aimerait bien voir des buts, surtout dans cette rencontre. Brest, on a marqué 5 au dernier match, il y a une pluie de buts et là on n'a que la pluie, on n'a pas les buts pour l'instant du côté de Brest. Ça va peut-être venir dans cette dernière demi-heure avec Satriano qui réclame la balle là côté gauche. Il est le long de son couloir juste devant Antoine Comboiré. Il est tout seul un petit peu dans le désert, ses gestes pour le moment, parce qu'on est parti côté droit, le centre justement et la tête de Mounier mais qui passe largement au-dessus, mais c'est décidément toujours lui qui va les chercher.
Oui, pendant la pub vous n'avez pas raté grand chose, on va dire, si on parle footballistiquement, mais il y a quand même une très grosse faute de Kenny Lala sur Nicolas Palois, et Palois qui est resté plusieurs pour aller une ou deux minutes au sol, qui s'est relevé, mais Kenny Lala qui repart de cette action avec un carton jaune.
Ça, il met du temps Nicolas Palois parce qu'il faut tout redéplier, oui. Pour se relever ça met toujours un petit peu plus de temps. Bon, Lafont qui dégage,
il
voitille
un petit peu quand même.
Oui parce que le coup était quand même sévère, mais c'est vrai que il n'est pas souvent blessé Nicolas Palois. C'est un costaud, un dur à cuire, et il fait du bien encore dans cette défense nantaise ce soir. Comme on le disait tout à l'heure, Loco Brassier avec celui qui est rentré tout à l'heure pour remplacer Pierre Lesmélou, Jonas Martin qui récupère ce ballon. On va écarter sur Brendan Chardonnay, on était côté gauche, on repasse dans l'axe maintenant avec
Pierre-Yves.
Jonas Martin, oui,
j'ai un message sur le direct studio de Richard qui dit: depuis le début de saison, Nantes joue bien et s'écroule à la 60e.
Oui, alors ça c'est une stat assez incroyable.
Ouais,
c'est une stat assez incroyable au niveau des points perdus dans la dernière demi-heure par les Nantais. Ouais. C'est vraiment très très important. Je vais retrouver le chiffre tout à l'heure. Mais c'est vrai que ça, c'est une stat très importante. Et il va falloir surveiller quand même, parce qu'on est effectivement maintenant dans cette dernière demi-heure. 62 minutes de jeu, 0 à 0. Nicolas Pallois qui s'agace un petit peu des joueurs brestois qui tombent trop facilement.
Okay. Oui, et les Brestois qui ont de plus en plus de mal d'ailleurs à se montrer dangereux sur la cage des Nantais.
Toujours 0-0, on revient dans un instant. Point Formule 1, Jean-Luc Croix, on arrive à la fin de la Q1 de la qualification du Grand Prix de Miami.
Absolument Thibaut, et le verdict est tombé. Malheureusement, on va trouver Bottas, Valtteri Bottas va rester sur le carreau avec la Sauber. C'est le cas également de l'Américain Logan Sargeant avec la Williams. C'est le cas de Daniel Ricciardo qui s'était pourtant qualifié quatrième tout à l'heure de la Sprint Race. Et puis, on trouvera également Kevin Magnussen avec la Haas et Guan Yu Zhou. Donc, ça passe pour les pilotes français. C'est évidemment la bonne nouvelle puisque Esteban Ocon est 11e et Pierre Gasly est 5e. Alors, ça n'est que la Q1. Hein,
oui.
C'est déjà une bonne indication. Les deux ont passé le cut. On va les retrouver en Q2 dans un instant.
Voilà. En espérant qu'ils passent encore le cut de la Q2.
On
et après, on verra. L'after live sur RMC. Retour au foot. Francis Leblay, la 32e journée de Ligue 1. Brest-Nantes, coach Courbis, Edgar Groslot, Pierre-Yves Leroux.
Oui, avec un barbecue qui a dû être déclenché devant le pénalty, juste derrière le fameux bar.
C'est bon ça.
Qui est juste derrière, parce qu'il y a de la fumée qui rentre partout. Alors, à moins que ce soit des fumigènes.
J'ai pas l'impression qu'il y a eu des fumigènes.
J'ai le nez bouché, moi. Mais ça peut être des fumigènes de l'autre côté, hein, des supporters qui sont restés au pénalty, qui préfèrent regarder le match devant les écrans, parce qu'il y a des écrans de l'autre côté de la rue, Thibaut, si tu veux, pour tes petites notes. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un peu surprenant parce qu'il n'y a pas de fumigène dans le stade, mais d'un seul coup, il y a un gros brouillard. 64 minutes de jeu et coup franc à venir pour les Canaries.
On a parlé de la météo, c'est là que ça sert d'avoir beaucoup de vent parce que d'un coup la fumée part très 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 rapidement.
Voilà. Exactement.
C'était fait exprès.
Exactement, et on va surveiller ce coup franc tiré juste devant le banc de Éric Roy et des Brestois. Frappé dans un instant par Benny Traoré qui lève le bras droit, qui va s'élancer, ce sera plutôt premier poteau. Effectivement, la tête de Ablin directement dans les bras de Marco Bizot.
Oui, sans souci, il a visé la lucarne opposée, mais pas beaucoup de puissance. Attention, peut-être de l'autre côté.
Ouais, la frappe, mais il est touché légèrement, la frappe qui n'est pas du tout cadrée et qui était signée. Il est là, Mathias Pereira-Lage, à l'entrée de la surface de réparation. Il s'écroule, il n'a pas réussi à frapper suffisamment fort pour mettre en danger Alban Lafont.
Et la partie qui est quand même en train de s'envenimer un petit peu, hein, parce que là ça fait plusieurs fois que Clément Turpin est obligé d'intervenir coach, et là la partie qui il y a moins de rythme quoi, c'est moins fluide.
Je réfléchissais en ce qui concerne les changements, donc il y a eu deux fois un changement. Donc, oui. Il n'y en a plus qu'un.
Il n'y a qu'une
donc,
session.
Ça veut ils peuvent faire trois changements d'un coup, mais dans tous les cas, il n'y aura qu'une session. Ouais, et s'ils font un changement à 75e, s'il y a un blessé derrière.
Et voilà. Donc là, c'est quand même compliqué pour le boulot de coach.
Oui, on revérifiait ça tout à l'heure avec Edgar. Il y avait la possibilité d'une session gratuite, une partie gratuite, éventuellement à la pause, en faisant un changement qui ne comptait pas dans ces trois sessions. Mais Del Castillo, il a fallu changer un petit peu avant cette pause, sinon ça n'aurait pas été comptabilisé. Mais il n'a pas pu tenir le joueur en forme du côté de Brest, qui va peut-être être absent pour la fin de saison. On en saura plus. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour les deux joueurs, c'est le mollet qui est touché pour Del Castillo, comme pour Pierre Lesmelou. C'est de là, de cette partie du corps, que se plaignent les joueurs.
C'est un jeu de mollet.
Voilà, Florent Mollet, lui qui n'est pas rentré côté Nantais, mais qui s'échauffe là, on va le voir. Il y aura peut-être un bon mollet ce soir, on verra ça tout à l'heure. Les Nantais qui sont en position défensive une nouvelle fois avec Pallois qui dégage. Possession de balle toujours largement pour les Brestois et ballon qui est rendu à Marco Bizot.
Ouais, 74% de possession depuis le retour des vestiaires. Ouais, ça augmente alors que visuellement on n'a pas forcément cette impression-là. On n'a pas l'impression qu'il y ait une énorme domination brestoise. Mais voilà, plutôt une possession globalement stérile côté brestois.
Et le ballon à hauteur de la ligne médiane. Brendan Chardonnay qui va chercher Steve Mounier. Il y a eu un bon contact là avec Jean-Charles Castelletto. Et finalement Marcus Coco qui va pouvoir dégager. Ils sont un peu sur le reculoir quand même les Canaries. À nouveau avec le ballon récupéré par Jonas Martin. Brendan Chardonnay dans le rond central. Chardonnay, il a du soutien juste devant lui. Le bloc malgré tout Canaries qui est bien organisé, hein. C'est pas facile de passer. C'est aussi pour ça qu'on en est à ce score de 0-0. Il faudra pas faire d'erreur dans cette dernière demi-heure des deux côtés désormais pour éviter de voir l'équipe adverse réussir à marquer.
C'est vrai que les Brestois, ça doit leur faire tout drôle quand tu passes il y a une semaine du match à Rennes là, avec 1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 4-2, 4-3, 4-4, 5-4 et que là tu te retrouves 0-0 à la 70e minute, il dit mais on fait le même sport là.
Ouais, mais Eric Roy l'avait dit, hein, il avait dit il n'y aura pas 5-4 tous les week-ends, on va peut-être servir à 0-0 pour l'instant. Pour l'instant, après 67 minutes de jeu, on y est. Score nul et vierge entre Brest et Nantes.
Et pour confirmer ce que tu disais tout à l'heure, Thibaut, la stat c'est que les Nantais, si on faisait le classement juste sur la dernière demi-heure de jeu en Ligue 1 depuis le début de la saison, et bien les Nantais seraient derniers, tout simplement. Ah ouais. Parce que ce sont eux qui prennent le plus de buts et qui perdent le plus de points dans cette dernière demi-heure. Pour l'instant, ils tiennent toujours ce 0-0 face, il faut le rappeler quand même, à une équipe qui joue sa place en Ligue des Champions.
Et d'ailleurs, ils sont bien revenus, Roland, les Brestois. Ils avaient eu du mal à terminer la première période, mais finalement, il y a plus de maîtrise là depuis le retour des vestiaires côté Brestois.
Ouais, c'est sûr, mais ça ne doit pas être simple de se passer de ces deux joueurs, même si il y a un effectif qui est pas, disons, extraordinaire au niveau de la quantité, mais au niveau de la qualité, oui. Bon, il y a deux, trois solutions, mais ça fait rien. Del Castillo et Lesmelou en moins, il y a quand même une équipe de Brest diminuée.
Ouais, ça paraît quand même, hein, dans le rythme de cette équipe, dans le jeu aussi, pour le moment, c'est un peu plus compliqué et une session de changement va venir pour les Canaries, cette fois, qui vont pouvoir faire entrer un petit peu de 109, notamment avec un joueur très important en milieu de terrain, souvent capitaine, mais qui était remplaçant aujourd'hui.
Oui, Pedro Chirivella qui va faire son entrée. Il est en train de prendre les consignes, il est en train de regarder. Et justement, on en parlait, Florent Mollet, voilà. On en parlait. Triple changement même, puisque Mostafa Mohamed va aussi faire son entrée. On va voir qui ces trois messieurs vont remplacer dans quelques instants. Maintenant, ils sont en train de récupérer les dernières consignes du staff.
C'est vrai que c'est trois changements intéressants. Coach et Pierre-Yves qui suit Nantes au quotidien, des joueurs qu'on a souvent eu titulaires
ouais,
c'est peut-être aussi une manière pour Comboiré de justement de modifier ces fins de match ratées par les Nantais.
Absolument, les trois rentrées, ok, on les voit, on les connaît, puisqu'on vient de l'entendre, mais à la place de qui?
Et oui,
on ne sait pas encore, bah, ça va vous dire ça d'ici quelques secondes.
Très clairement,
Kadewere peut-être pour Simon,
ouais, ouais, ou
possible.
Alors, pour Mohamed, tu veux dire Thibaut?
Oui, oui, oui.
Simon, ça
faudra attendre l'année prochaine.
Oui, 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 bien sûr.
Mais pour ce qui est des milieux de terrain, est-ce que Benny Traoré va sortir également? Je ne sais pas. Il y aura peut-être une réorganisation plutôt que d'être à 3 devant, être à 2. On va voir ça dans quelques instants. Ils sont en train, tous les trois, d'écouter en tout cas les consignes d'Antoine Comboiré et de ses adjoints avec Yves Bertucci qui n'est pas loin également. Nicolas Palois qui récupère ce ballon parce que pendant ce temps-là, ça joue. On a attendons les changements avec Jean-Kévin Duverne qui rend là-bas le ballon à Mathis Abeline à l'entrée de la surface de réparation. Il a été obligé de se déporter, il n'a plus du tout de soutien, il va revenir derrière sur Nicolas Palois. C'est peut-être un centre à venir de Nicolas Palois, légèrement sifflé par les supporters ici de Brest. Sissoko qui lui aussi recule et passe à Castelletto sur le côté droit, cette fois Marcus Coco pour le centre. Voilà, c'est parti, ça sera premier poteau, Marco Bizotte des deux points qui dégage. Là aussi on prend pas de risque, hein, avec ce ballon qui est légèrement humide et la touche à venir et les changements. Donc on va connaître les remplaçants dans quelques instants, savoir si c'est du poste pour poste au milieu de terrain. On va connaître déjà le premier nom du garçon qui va sortir.
Avec donc l'entrée de Pedro Chirivella et la sortie de Samuel Moutoussami, le milieu de terrain congolais, qui va donc laisser sa place plutôt discret ce soir, Pierre-Yves.
Bah, il a toujours de l'abattage, mais c'est vrai que c'est un rôle un petit peu de l'ombre pour Samuel Moutoussami, mais ça a été efficace et ça sera un peu le même rôle d'ailleurs pour Pedro Chirivella qui va rentrer.
L'autre sortie, c'est Benny Traoré, on l'a dit, il s'était pris un carton jaune et il va laisser sa place donc. Et puis le dernier changement, c'est Mathis Abeline, pas du tout en réussite ce soir, et qui donc laisse sa place les deux à Mollet et à Mostafa Mohamed.
Et on rappelle la stat qu'on donnait ce midi avec Roland dans les paris. Mohamed qui n'a pas marqué depuis le 9 décembre dans le jeu. Il a marqué un coup franc et un pénalty depuis, mais son dernier but dans le jeu avant de partir à la CAN, c'était face au Paris Saint-Germain le 9 décembre. Donc ça commence à quand même dater énormément pour ce joueur qui a été brillant sur la CAN et qui là est plus qu'absent.
Et ce qui montre bien les difficultés offensives de Nantes, c'est que c'est toujours le meilleur buteur de Nantes cette saison, 8 buts, alors qu'il a plus mis un but dans le jeu depuis décembre.
Donc Abeline, il fait partie des joueurs qui sortent.
Oui, oui, exactement. Abeline qui a raté plusieurs grosses occasions et qui laisse sa place donc à la 70e minute.
Tu l'aurais laissé rouler?
C'est la question que j'allais poser.
Sincèrement, oui.
Moi aussi.
Ouais. Ben oui, oui. sur sa capacité technique et puis dans un rôle aussi différent.
Pour pas le sortir aussi comme si c'était parce qu'il avait raté ces buts-là qu'il sort. Non, je pense que c'est un joueur talentueux qui peut faire partie des joueurs qui te font gagner.
Un point temps et score, messieurs, s'il vous plaît.
Mais bon, après, chacun sa vision. Hein.
72e minute de jeu, ça va aller vite pour les buteurs puisqu'il y a toujours 0-0 à Le Blé entre Brest et Nantes.
A tout de suite, la Formule 1, la qualification du Grand Prix de Miami sous le soleil de Floride. Jean-Luc Roy.
Ah, il fait beau, il fait bon, il fait 29 degrés dans l'air et 47 degrés sur la piste, c'est pas mal.
Dans vos cœurs.
Mais bien sûr. Et il reste encore 9 minutes et 40 secondes, autant dire que pour le moment, on n'a pas de performance significative. Le but, ça va être évidemment de passer le cut du top 10 pour pouvoir participer à la bataille pour la pole. Je vous rappelle, la grille de la sprint race, c'était Verstappen qui avait été le plus rapide devant la Ferrari de Charles Leclerc. Et puis en deuxième ligne, on avait Perez et Ricciardo. Je peux déjà vous dire que la deuxième ligne ne sera pas la même puisque Ricciardo est passé à la trappe en Q1 tout à l'heure, malheureusement pour lui, avec Bottas, Sargeant, Magnussen et Zhou.
Il est 22h30, voici le programme de votre soirée sur RMC. Dans un instant, la fin en intégralité, le dernier quart d'heure de Brest-Nantes, 20 dernières minutes d'ailleurs, la fin de cette séance de qualification également. Et puis au coup de sifflet final du foot, ce sera l'after sur RMC. Coach Courbis, Kevin Diaz et vous tous au 32-16, il y aura beaucoup de matchs à analyser. 4 aujourd'hui de Ligue 1, plus les drôles de dames avec le titre du Real en Espagne, des nouvelles du Borussia Dortmund. Notamment, à tout de suite sur RMC.
RMC, l'After Live.
Thibaut Giangrande.
Avec Roland Courbis, la 32e journée de Ligue 1, le dernier quart d'heure en intégralité sans pause de ce Brest-Nantes. Edgar Grelot, Pierre-Yves Leroux.
Il n'y aura pas carton jaune pour Florent Mollet. Pourtant, la faute, elle était sévère. Elle aurait pu mériter un petit carton pour cette faute sur le doigt rond rentré en jeu il y a quelques instants dans une nouvelle session de remplacement, la dernière pour les Brestois qui sont tenus en échec pour le moment 0-0 alors qu'on va rentrer dans le dernier quart d'heure.
Oui, la sortie de Steve Mounier remplacé donc par Jérémy Le Doiron et Madi Camara remplacé par Camori Doumbia au milieu de terrain.
Le coup franc à venir, intéressant pour Brest qui va être frappé par Mathias Pereira à l'âge. Il y a du monde à l'entrée de la surface de réparation. Il y a ce stade Francis Leblay qui pousse derrière son équipe parce qu'on jettera peut-être Thibaut un coup d'œil sur le classement. Les Brestois qui vont bien être juste devant les Lillois qui pourraient leur passer devant. Pourquoi pas la tête, elle est à l'entrée de la surface de réparation. Elle est jaune et ça permet aux Canaris de se dégager avec Kadewere qui est resté là solide sur ses appuis. Et malgré tout, il ne va pas garder la touche. Et c'est vite joué avec le doigt rond. Et ça sera un corner. Corner à venir pour Brest qui continue à pousser. Après un premier coup de pied arrêté, il y en aura un second. Cette fois, ça sera un corner. Et c'est Mathias Pereira Lage qui va aller le frapper. Occasion à nouveau pour les Brestois de ramener ce ballon dans la surface de réparation. On fait des grands gestes là, du côté du staff nantais. On ne comprend pas pourquoi Florent Mollet n'est pas rentré dans la surface de réparation pour défendre. C'est le cas désormais. C'est parti. C'est bien frappé. C'est pour la fin. Les deux points, il prend pas de risque. Comme il y a cette humidité ambiante, il préfère dégager, tout comme l'avait fait Marco Bizot tout à l'heure. Les Brestois toujours en possession du ballon. Attention, ça peut aller vite avec le petit Doumbia entré en jeu il y a quelques instants. Il va avoir Mathias Pereira sur le côté gauche. Chirivella, lui aussi, il fait partie des entrants, mais du côté nantais. Et il vient au pressing pour empêcher le Brestois de ramener ce ballon dans la surface de réparation nantaise.
Il reste un quart d'heure et les Brestois qui poussent pour essayer de remporter cette partie. Attention, le gros contact là quand même, mais l'arbitre ne siffle rien.
Ouais, ça aurait pu être un joli coup franc à nouveau pour les Canaris. Le joli extérieur du pied signé à Mohamed pour Jean-Kévin Duverne. Il a basculé tout le jeu sur le côté gauche là-bas. Duverne qui tente de passer, c'est bien joué. Est-ce qu'il va réussir à centrer derrière? Non, il n'y arrive pas.
Je veux bien qu'on laisse jouer, mais oui. Quand même, il y a une limite là-haut.
C'est plus qu'à l'anglaise là quand même. Hein. Il y avait un gros contact. Hein.
Ah oui.
Ouais, et possibilité de coup franc derrière pour les Brestois, et bien qui n'a pas été donné aux hommes d'Éric Roy, qu'on voit pas du tout. Hein. Il sort jamais de son banc pour l'instant. Il reste à l'abri.
Il est en tribune, je crois, non?
Ah bah oui, c'est vrai que j'avais pas fait attention. Bien sûr, c'est bien pour ça qu'on le voit pas sur son banc. C'est Julien Lachuère. Je me disais, je vois Julien Lachuère en permanence, mais pourquoi je vois pas Éric Roy?
Si tu m'avais dit que tu l'avais vu, j'aurais pris un petit rendez-vous ophtalmo là.
Et bien oui, c'est pour ça que c'est Julien Lachuère qui est là sur le banc. Alban Lafont qui récupère le ballon et qui va être obligé de dégager dans quelques instants, mais qui prend du temps. Ce sont des secondes précieuses parce qu'on arrive à la 78e, Edgar.
Et un match nul en terre brestoise, ce serait quand même un bon bon résultat pour Nantes, hein, puisque on le rappelle, ils partaient avec 3 points d'avance avant le début de match sur leur concurrent direct. Alors un match nul quand on joue le maintien face au 3ème de Ligue 1, c'est une bonne opération.
Oui, surtout quand on connaît le contexte aussi messin, ce qui s'est passé en fin de match avec ce carton rouge pour Miko Tadze qui va priver les Messins quand même d'une arme importante pour la dernière ligne droite du championnat. Le ballon pour Brendan Chardonnay avec Hugo Magnetti. Et nouveau changement dans quelques instants du côté nantais pour ramener encore du 109, le numéro 98, parce que c'est sa date de naissance. Voilà le secret du numéro du côté nantais, du joueur qui va rentrer, Edgar.
Ouais, on va attendre un petit peu pour voir ce changement, pour voir qui à la place de qui il rentre, hein, Kelvin Amiens.
Marcus Coco très probable.
98.
Belle année, hein, beau cru.
Non mais il peut nous mettre aussi 2098.
Non, ça s'arrête à 99. Ah, ouais, on peut pas.
C'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude, hein, de ces numéros-là à une époque. Mais là, voilà, il y a du choix désormais. On peut choisir un numéro de département, une année de naissance. C'est bien. Et le voilà, le changement, ce ne sera pas Coco, ça sera Jean-Kévin Duvet.
Oui, le changement donc côté nantais avec l'entrée de Kelvin Amiens à la place de Jean-Kévin Duvet. Duverne qui n'était pas vraiment à son poste ce soir, et on va voir si Kelvin Amiens va à gauche.
Non,
Marcus Coco. Allez,
c'est pour ça,
qui renverse et qui va de l'autre côté, côté piston gauche, alors que Kelvin Amiens va probablement prendre un poste de piston.
C'est pour ça que j'imaginais plutôt Coco sortir, mais non, on va intervertir avec Coco qui va passer sur le côté gauche. Bah, le premier ballon joué par Amiens, ce sera une touche longue, elle est effectuée dans la surface de réparation, c'est pas récupéré par un Nantais, et c'est dans un deuxième temps Chirivella qui va profiter de ce deuxième ballon. Amiens à nouveau en possession du ballon pour un centre cette fois, et ça sera une touche. Il va pouvoir refaire le coup de la touche longue dans quelques secondes, et pourquoi pas, eh bien permettre à il prend de l'élan 4-5 mètres derrière. Il faut se pencher ici, Edgar, parce que sinon on ne voit pas le poteau de corner.
Numéro de contentionniste de Pierre-Yves pour pouvoir avoir la clé.
Attention, Kadewere, il n'arrive pas à pivoter et à frapper derrière Sissoko pour les Nantais, avec Palois qui va transmettre côté gauche à Marcus Coco qui est dans son couloir. Marcus Coco et qui se retourne, qui remet à Palois, le centre de Palois à hauteur du point de pénalty. Il y a Mohamed, mais il n'est pas vainqueur dans son duel de la tête, et on va ressortir du côté de Jérémy Le Doiron. Il va être en difficulté, mais il va obtenir le coup franc.
Et Nicolas Palois qui ne sait pas que fait des amis, hein. Ce soir il est copieusement sifflé à chaque fois qu'il touche le ballon.
Ouais, ça lui passe au-dessus, il n'y a pas de souci. Oui. Il a l'habitude,
il en a connu d'autres, je pense.
Il reste zen, il n'y a pas de problème. C'est pas ça qui va le perturber dans cette défense qui s'est réorganisée avec Palois côté gauche, avec Schomert et avec Jean-Charles Castelletto. On est dans les 10 dernières minutes, Thibaut, et il y a toujours 0-0 du côté de Leblé entre Brest et Nantes.
Et c'est la Store Live que vous écoutez ce soir sur RMC. On va suivre en intégralité ces 10 dernières minutes et coup de sifflet final. Ce sera l'after avec Coach Courbis, Kevin Diaz, avec vous tous au 32-16. Vous pouvez nous appeler, Adrien Djala au standard, vous pouvez venir nous voir et commenter votre soirée sur YouTube, la chaîne de l'after, @after-foot. Énorme after ce soir, 4 matchs de Ligue 1 à analyser, à débriefer tous ensemble, plus tout ce qui s'est passé à l'étranger. Les drôles de dames seront là également. Rendez-vous au coup de sifflet de finale de ce match. On ira faire un tour à la Formule 1 également dans un instant, le verdict de la Q2, mais d'abord les Brestois à l'attaque. Pierre-Yves et Edgar.
Oui, alors souvent on se dit les Brestois ils vont être capables de refaire basculer ce match. On l'avait vu contre Rennes la semaine dernière, ils sont très surprenants. Là j'ai quelques doutes, Roland. J'ai le sentiment qu'avec les sorties de Del Castillo, Pierre Lesmelou, c'est un peu plus compliqué.
Et en plus de ça, une équipe de Nantes qui une fois de plus à l'extérieur tient quand même la route. Là on est à 10 minutes plus le temps additionnel de la fin, 0-0 contre une équipe de Brest en pleine confiance, avec en plus une victoire 5-4, rien que le scénario te met dans une situation où tu dois être redoutable. Et on n'a pas ce Brest-là, parce que si on se rappelle la fin de la première mi-temps, les occasions de Nantes, déjà c'est pas mal pour Brest d'être encore avec un point du nul.
Oui, c'est vrai que ça pourra être finalement un bon point pour les Brestois dans l'analyse de ce match. On entendra tout à l'heure les bilans effectués par les deux coachs, et on imagine qu'Antoine Comboiré lui se dira peut-être qu'il y avait moyen de faire mieux et de venir assurer le maintien finalement ou presque ici en terre bretonne. Il y a encore quelques occasions à jouer intéressantes, évidemment, comme celle-ci peut-être pour les Brestois. Ça va en touche, 0-0, 83e.
C'est la fin de la Q2 sur la séance de qualification du Grand Prix de Miami. Jean-Luc Roy, quels sont les 5 monoplaces qui vont passer à la trappe?
Eh ben, je demande quelques secondes encore, parce que certains pilotes sont en plein effort. C'est le cas d'Esteban Ocon, notamment, qui va peut-être pouvoir améliorer encore Esteban, qui pour le moment ne passerait pas le cut. Esteban, il est 13e pour le moment. Il est juste derrière Pierre Gasly. Ça veut dire que les deux pilotes français et leur Alpine resteraient sur le carreau pendant cette Q2. Mais il y a encore un très léger espoir. Non, c'est terminé pour Esteban Ocon, qui n'améliorera pas. J'observe le chrono de Pierre Gasly. On attend encore, il est dans le troisième secteur. Non, c'est tombé, il n'a pas amélioré non plus. Dans le troisième secteur, je peux te dire, il y a Stroll peut-être encore. Stroll qui n'est que dans le... Il a terminé le premier secteur, il va arriver dans le deuxième. Il a encore une chance peut-être, il est 11e pour le moment. En tout cas, Pierre Gasly ne passera pas, il est 12e. Ocon est 13e, Alex Albon a terminé aussi, il est 14e. Et alors, l'énorme surprise, et oui, je regarde, c'est bien Fernando Alonso avec son Aston Martin. Alonso ne passera pas la barre non plus. Et pour Stroll, eh bien non, c'est trop long. C'est terminé également. Donc les 5 éliminés, les deux Aston Martin de Stroll 11e et d'Alonso 15e, les deux Alpine de Gasly 12e et d'Ocon 13e, et puis la Williams d'Albon. On va donc retrouver bataille pour la pole, et c'est l'homme le plus rapide dans cette Q2, Charles Leclerc avec la Ferrari devant Verstappen, Hamilton, Piastri, Perez, Norris, Sainz, Russell, Tsunoda, excellent, et Hülkenberg avec l'As.
Qui partira en pole position demain à 22h en direct sur RMC de ce Grand Prix de Miami? Réponse dans quelques minutes dans l'After Live, les dernières minutes de ce Brest-Nantes. C'est la 32e journée de Ligue 1. Coach Courbis et Alain Blé, Edgar Groslot, Pierre-Yves Leroux.
Avec encore une occasion énorme pour les Nantais, le centre de Mohamed Kadewere qui est face à Marco Bizot et qui n'arrive pas une nouvelle fois à mettre son pied pour pousser le ballon au fond des filets.
C'est son pied gauche, c'est pas son meilleur pied.
Et oui, mais il faut mettre le pied droit dans ce cas-là.
Mais bon, là, une fois de plus, bon, on espère pour les Nantais qu'ils ne regrettent pas à la fin, parce que celle-là d'occasion était belle. Quoi.
Voilà, c'est assez incroyable le nombre d'occasions.
Tino Kadewere, il en a eu plusieurs aussi. Ah oui. Je pense qu'il va mal dormir ce soir si le score en reste là, parce qu'il aurait vraiment pu offrir la victoire au Canaries. Ouais,
s'il en reste là, déjà, ça fait un point. Mais attention quand même.
Oui, et surtout quand on regarde ces stats où on ne voit qu'un tir cadré pour les Nantais. On a l'impression qu'ils ont eu énormément d'occasions.
C'est ça.
Mais ils n'ont pas réussi à trouver le cadre. Donc Marco Bizot, finalement, pas été si en danger que ça pour aller faire le geste important. Voilà, il en a eu une belle sur une position de hors-jeu. Donc finalement, elle n'aurait pas été acceptée. Mais c'est vraiment l'imprécision nantaise, mais qui est un problème depuis le début de la saison, on le disait tout à l'heure. Et c'est encore criant ce soir avec cette incapacité à faire trembler les filets adverses. Le ballon est revenu dans le camp nantais. On est dans les 5 dernières minutes désormais de ce match entre Brestois qui vont peut-être perdre leur 3ème place en fonction des résultats de Lille, et les Nantais, eux, qui se rapprochent un petit peu plus du maintien avec un point important pris pour le moment.
Et c'est vrai que c'est là où on sent peut-être les Brestois en difficulté ce soir. C'est que tu le dis, Pierre-Yves, c'est pas du tout une bonne opération dans la course à la Ligue des Champions directe, puisque ce résultat pourrait permettre à Lille de passer devant. Et pourtant, on sent pas les Brestois finalement capables d'aller arracher plus, quoi.
Non, mais imaginons que ça se termine 0-0. Si avant les deux matchs contre Rennes et contre Nantes, on fait la proposition aux Brestois de prendre 4 points dans ces deux matchs, ils te disent OK.
Oui, mais si après le match contre Rennes, on leur dit tu prends qu'un point contre Nantes.
Ah non, mais je te parle avant le match.
Oui, mais moi aussi, je fais mon petit jeu.
Plan comptable.
Ton petit jeu, c'est de dire après le match. Et c'est sûr que si c'est de dire aussi après le match contre Nantes. Là, je te parle des deux derniers matchs.
Oh non, je préférais mon jeu.
4 points sur ces deux matchs-là, bah, je trouve que c'est très bien.
Dans le plan comptable, c'est peut-être ce qui était prévu d'ailleurs du côté des Brestois et d'Éric Roy. Ce qu'on ne sait pas, c'est quel est le plan comptable pour les deux derniers matchs avec Reims et Toulouse. Et puis ça dépend des adversaires aussi.
Et attention, messieurs, à ne pas parler trop vite, hein, puisqu'on entre dans la 87e minute. Il faut savoir que Brest est l'équipe qui a pris le plus de points cette saison en Ligue 1 après la 86e. 11 points pris par rapport au but dans les derniers moments du match. Alors que Kamori Doumbia prend un carton jaune pour cette faute. Voilà, on a connu le Fergie Time à l'époque, le Xabi Alonso Time cette saison avec les Leverkusen. Et si on lançait le Eric Roy Time avec le Stade Brestois cette saison?
Le King, si King Time.
Doumbia maintenant prend des cartons jaunes pour faire des fautes, c'est que ça fait pas. partie de ses habitudes.
Ouais, là, il était vraiment en retard dans une action qu'il menait bien, pourtant, et qui aurait pu lui permettre de se retrouver en position de frappe. Et puis derrière, il a le petit geste qu'il ne faut pas faire. Résultat, le jeu est arrêté pour le moment avec une blessure pour Marcus Coco qui est soigné. Là aussi, on voit un peu de fumée sortir.
Ouais, la bonbonne magique.
Ouais.
Exactement.
Il reste 3 minutes dans le temps réglementaire, 0-0 entre Brest et Nantes. On va vivre ces dernières minutes en intégralité. Elles sont importantes pour la course à la Ligue des Champions, pour la course au maintien. On fera un point précis classement juste après cette rencontre et dans la foulée l'after. Coach Courbis, Kevin Diaz et vous tous au 32-16. On attend également le début de la Q3, la dernière partie de la qualification du Grand Prix de Formule 1 de Miami. Pierre-Yves Leroux, Edgar Grollo et Francis Leblay qui se réveille un petit peu.
Ouais, qui se réveille effectivement, mais du côté du terrain, on voit bien que l'entrain est un petit peu douché à l'image de la météo. Là, il y aura un carton pour Chirivella parce que grosse faute à nouveau. Il est en retard, Pedro Chirivella, sur Satriano et coup franc à venir. Il n'arrive pas à enflammer cette fin de rencontre, les Brestois. Il y aura un nouveau changement dans quelques instants avec un ancien Toulousain qui va faire son entrée en jeu.
Oui, wow. Nouveau changement à suivre, c'est Nicolas Cozard qui va faire son entrée. On va voir qui il remplace dans cette formation nantaise. Il reste une minute à jouer maintenant dans le temps réglementaire, cette deuxième partie de match qui était quand même plus hachée avec ses fautes, avec ses changements. C'est quand même moins
cette fois ça sera Coco
qui va rentrer avec couloir gauche.
Ouais, exactement, c'est Marcus ça. Coco remplacé donc par Nicolas Cozard.
Oui, qui vient d'être touché en plus, Marcus Coco qui boite légèrement, qui va sortir. Très utilisé par Antoine Comboiré, qu'il a bien connu à Guingamp, qui connaît ses limites mais qui connaît aussi ses qualités, qui sait que c'est un garçon sur qui il peut compter et qui dans un groupe est important aussi. Il cède sa place à Nicolas Cozza pour ses dernières minutes. Cozza, vous vous en souvenez, qui avait été sévèrement touché
Il reste une trace là, on a vu il a un cocard sous l'œil gauche.
Ah oui, il avait pris un bon coup et il récupère, il fait son retour dans le groupe nantais. Jérémy Ledoir, on le contrôle orienté de la poitrine, le petit 1-2 tenté par Satriano, mais le doigt ont été un petit peu parti, il n'était plus dans le sens du jeu. Résultat, c'est Jean-Charles Castelletto qui va récupérer ce ballon avec Amian qui met ce ballon lui directement en touche. La remise en jeu signée Jonas Martin avec juste à côté de lui Bradley Loco avec Satriano, toujours ce bloc nantais très organisé. Il y aura 5 minutes de temps additionnel, il y aura encore des occasion pour les Nantais ou pour les Brestois. On va lancer ce fameux chrono dont tu nous parlais, Edgar, avec l'importance de ces dernières minutes pour les Brestois. On est rentré dans le temps additionnel pour 5 minutes et il y a toujours 0-0 au stade Francis Leblay.
Les Brestois qui sont très hauts sur le terrain. Là, les Nantais qui viennent de se dégager, mais quasiment tous les joueurs étaient dans la moitié de terrain nantaise, alors que vous entendez évidemment le stade Francis Leblay qui se lève comme un seul homme pour pousser les Brestois qui rêvent évidemment de faire un grand pas vers la Ligue des Champions ce soir en arrachant la victoire.
Ouais, le ballon pour Loco une nouvelle fois côté gauche, ça passe beaucoup sur ce côté avec Amiens qui essaye de bloquer, empêcher le passage des Brestois. Comme ça ne passe pas côté gauche, on va essayer de l'autre côté pour les Brestois avec ce ballon pour Brendan Chardonnay, mais c'est compliqué pour Brest ce soir de passer, de bouleverser, de gêner ce bloc canari. Et finalement les Nantais qui vont peut-être regretter toutes ces occasions. Ils n'auront pas réussi à faire trembler les filets. Peut-être que Jérémy Ledoiron lui va réussir. La frappe de Ledoiron, l'angle est fermé. Il y a Cozza qui revient et qui sort ce ballon alors qu'il y avait la menace de Pereira juste à côté. Ça réveille tout le stade Francis Leblay.
On a cru qu'il allait tomber parce qu'il y a un tout début d'accrochage là. S'il tombe Jérémy Ledoiron, c'était limite comme situation. Et attention parce qu'un Nantais reste au sol et Clément Turpin fait entrer.
Rappelle-toi qui est l'arbitre ce soir. S'il tombe, aucun problème.
Moussa Sissoko qui est au sol, visiblement touché par des crampes. Ça va retarder un petit peu la prise de ce corner de la gauche vers la droite. J'ai l'impression que c'est Mathias Pereira-Lage qui va le tirer.
Et on a fini les sessions de changement du côté nantais. Là. L'entrée de Cozza, il y a eu trois entrées et puis l'entrée de Amiens.
C'est des crampes, il s'est relevé. Sissoko, il va pouvoir reprendre sa place. Il reste 3 minutes dans ce temps additionnel.
Cette intervention de Cozza. Il n'est pas rentré longtemps, mais oui. Elle est importante. Cette
Exactement. Matt, c'est parti pour Pereira Lage. Lafont qui va réussir à toucher ce ballon dégagé. Et Mollet qui propulse, lui, la balle un petit peu plus loin, jusqu'à la ligne médiane. Ballon récupéré par Mohamed. Oh, il l'a cherché à remettre à Mollet. C'était bien joué. Mais derrière, ça n'a pas réussi au Canary avec un nouveau ballon récupéré par les Brestois. Sur le côté gauche, il y a Mathias Pereira Lage qui revient de sa position de tir. Jérémy Le Doiron et l'obstruction sur Castelletto, mais il y a Loco qui réussit à centrer la tête de Palois. Attention, c'est chaud là sur la surface de réparation. Le Doiron avec nouveau ballon pour Brest. Non, finalement il y a le retour de Mohamed qui fait un gros boulot défensif là dans ces derniers instants. C'est très important, le pharaon nantais qui est rentré aussi pour ce rôle là d'aller chercher des ballons importants. Il reste une poignée de secondes, j'ai pas le chrono sous les yeux.
Il reste deux minutes quand même à jouer.
Avec un peu d'astuce, il y avait la possibilité, je pense, de trouver peut-être quelque chose au lieu de sauter par-dessus le tac.
Oui, tout à fait.
Et là, les Nantais qui ont été intelligents, Palois qui a accompagné ce ballon, la bonne communication avec son gardien Alban Lafont qui capte et qui gagne de précieuses secondes avant de dégager.
Les deux dernières minutes, on y est dans le temps additionnel désormais. Ça passe au-dessus de la ligne médiane et du milieu de terrain brestois et ça va même donner une touche au Canary avec Kadewere qui prend son temps, lui, et qui va être sifflé très certainement par les supporters juste devant Julien Lachuaire. Il prend le temps même de transmettre ce ballon à Amiens qui va effectuer la touche. Il n'a pas de solution, il gagne 1, 2, 3, 4, 10,
ils ont pas de raison de se presser là, les
30
Canaries.
Secondes et c'est finalement ce ballon qui est joué mais pas à l'endroit, donc la touche est perdue. Résultat, ça rend tout de suite le ballon brestois, c'est pas forcément non plus très intéressant ça.
Oui, Clément Turpin qui invalide cette touche brestoise. Ils vont pouvoir se relancer. Il reste une minute exactement dans ce temps additionnel, messieurs.
Et la dernière occasion, il sera peut-être pour les Brestois. Brendan Chardonnay avec son brassard de capitaine qui donne le là de cette action. Long ballon en profondeur, c'est bien joué ça pour Satriano. Le contrôlé est bon, légèrement orienté mais désaxé. Il y aura le centre derrière, une tête brestoise, Kadewere qui dégage. Eh bien, ce coup de pied n'est pas très précis de la part de Kadewere, mais c'est pas très grave là dans ce sens-là. Devant le but, c'est plus grave, mais là, ça oui. fait beaucoup de bien au Canary. Lui aussi est en position défensive. Allez, encore une peut-être.
On est à
4-15 dans le temps additionnel. La dernière minute, ça va repasser par le côté droit. Ballon perdu par les Brestois cette fois. La dernière occasion, ben, sera peut-être plus pour les Canaries avec Nicolas Kozza. Kozza qui va repasser derrière. Grand coup de pied de Nicolas Palois qui ramène le ballon dans le camp à Brestois mais qui redonne une nouvelle fois une occasion aux Brestois. Je regarde Monsieur Turpin, long ballon vers Le Doiron, le contrôle de Le Doiron à la lutte avec Nicolas Palois. Le Doiron qui remet derrière, il n'y aura pas de faute à mon avis, ça va se terminer là. La fin du match, c'est fini, 0-0 entre Brest et Nantes. La belle opération pour les Nantais en vue du maintien, c'est moins bon même s'il y a un point pour les Brestois en vue de la Champions League.
Pierre-Yves Leroux et Edgar Grelot à Francis Leblay. Merci les gars, bonne soirée. On vous laisse filer aux réactions qu'on essaiera d'avoir dans l'after dans quelques instants. Rapide point classement après ce match qui permet aux Brestois de prendre provisoirement 2 points d'avance sur Lille. Brest 3e, Lille 4e et les Lillois qui joueront lundi soir et qui auront donc l'occasion contre Lyon de passer devant dans le bas du classement. Nantes avec ce point supplémentaire prend 4 points d'avance sur Metz, le barragiste. Et d'ailleurs, Nantes sera au pire barragiste cette saison, ne pourra pas descendre directement en Ligue 2. 22h54, juste avant l'after, un point sur la Formule 1, c'est la Q3, qualification du Grand Prix de Miami, Jean-Luc Roy.
Nous sommes juste à la moitié de cette Q3, il reste 6 minutes environ et le premier assaut a été lancé. Verstappen est l'homme le plus rapide. Est-ce une surprise, vas-tu me dire? Eh bien non, il serait en pôle de ce Grand Prix, effectivement, à Miami. 1:27.241, mais il est serré de près par les deux Ferrari de Charles Leclerc, qui n'est qu'à 141 millièmes, un souffle. Carlos Sainz est 3e temps pour le moment, à 214 millièmes. On trouve ensuite Piastri avec la première des McLaren, 4e, donc à 434 millièmes. Sergio Perez, l'équipier de Verstappen chez Red Bull, est 5e. Norris, 6e. Et les Mercedes, les voilà. Russell, 7e. Hamilton, 8e. Hülkenberg, 9e. Et Tsunoda, 10e. Mais il va y avoir dans quelques secondes maintenant, Thibaut, le deuxième assaut.
Et ce sera à vivre en direct dans l'After sur RMC. À tout de suite, Jean-Luc, il est 22h55. Petite pause et on se retrouve en direct pour l'After. Coach Courbis, Kevin Diaz et vous tous au 32-16 pour analyser cette journée de Ligue 1. 4 matchs, des résultats importants dans le haut, dans le bas du tableau et les drôles de dames. À tout de suite sur RMC.
RMC, l'After Live.